Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdivois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou en 101.7 sur Lucan d'Ivois. Et aussi, l'émission est mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Delphine Roudniansky, bonjour.
Bonjour.
Et de Emmanuel Mourier, bonjour.
Bonjour.
Alors tous deux, vous êtes conseillers numériques et vous êtes ici pour nous parler d'une activité qui sera proposée le 17 février à l'adresse des auditeurs ou des administrés, dira-t-on, qui ont quelques problèmes avec le numérique et surtout les démarches administratives, j'imagine.
Oui, c'est ça, c'est l'idée.
Alors, justement, c'est un constat pour vous, ce déficit de méconnaissance du service informatique et numérique de l'administration ?
Comment répondre à ça ? Je formulerai les choses un peu différemment, dans le sens où, quelle que soit notre compétence avec les outils numériques, on arrive tous à un certain niveau où on a besoin d'aide. Ce n'est pas réservé aux personnes en difficulté. En réalité, même les personnes compétentes peuvent se trouver embêtés pour faire une démarche administrative ou pour faire quelque chose d'un peu spécifique sur leur appareil, leur téléphone, leur ordinateur. Et donc chacun a besoin d'entraide. Mais bien évidemment, il y a des personnes qui sont peut-être moins avancées que d'autres et qui pourraient risquer de se trouver un peu au bord de la route ou se sentir un peu délaissées. Et donc c'est d'abord auprès d'elles, en effet, qu'on est amené à travailler. Mais en réalité, on est là pour tous les habitants, toutes les personnes.
On pourrait peut-être préciser les problèmes rencontrés par le public par rapport au numérique. Quels sont-ils ?
Eh ben, ça peut être tout d'abord de savoir se servir d'un outil. Donc ça peut être de type tablette, téléphone, smartphone, ordinateur. Déjà, ça, c'est la base. Et ensuite, savoir naviguer sur Internet. Pour les personnes aussi qui n'ont pas d'adresse mail, c'est savoir comment gérer sa boîte mail, comment envoyer, recevoir des mails, savoir comment gérer ses documents administratifs. Qu'est-ce qu'on a encore ?
Ça peut être aussi l'utilisation des réseaux sociaux, des logiciels de communication comme Skype, WhatsApp, enfin les outils de visioconférence par exemple.
Ça peut être aussi dans le cadre de l'emploi. Quand on recherche un emploi, y a quelques personnes qui peuvent avoir des difficultés à faire un CV sur un outil de traitement de texte, des choses comme ça.
Ça peut être tout simplement vouloir faire une commande en ligne ou poster une petite annonce sans qu'on sache le faire.
Et d'autant que certaines administrations donnent un temps imparti pour les déclarations, ce qui fait que les personnes se retrouvent bloquées à un moment donné. Et donc de recommencer le processus, puisqu'il faut de nouveau se connecter de nouveau. Donc ça aussi, c'est un problème que vous rencontrez. Ça veut dire, c'est lié à quoi, cette lenteur? Déjà, la compréhension des questions, de l'agencement, mais aussi, il y a des personnes qui ont peut-être aussi des difficultés de français.
Il y a cette possibilité-là, effectivement, des personnes qui sont pas forcément, qui parlent pas forcément français et qui ont ce frein-là. Mais il y a aussi les personnes qui, tout simplement, se positionnent, on va dire, comme des personnes réfractaires à tout ce qui est lié à l'outil informatique, au numérique, et qui, de fait, typiquement pour les impôts, vont attendre la dernière minute pour le faire, voire laisser la date dépasser et ensuite se retrouver dans une situation monstrueuse, parce que c'est toujours complexe d'avancer avec ça. Le gros frein, je dirais, c'est sûrement le fait qu'on ne maîtrise pas en fait, l'outil en lui-même. Et je dirais qu'il y a aussi peut-être cette dimension de on sait pas trop. Enfin, en ce qui concerne les démarches administratives, en tout cas comme les impôts, c'est assez fiable parce qu'on sait à qui on donne les informations, c'est à l'État. On sait ce qu'ils en font. Voilà, ça permet de calculer nos impôts et tout ça. Mais il y a peut-être une autre dimension où les gens ne savent pas qu'est-ce qu'on va faire de leurs données, où est-ce qu'elles vont être stockées. Et peut-être ça met un frein à l'utilisation du numérique.
Je compléterais aussi un petit peu comme je disais tout à l'heure. En effet, il y a des personnes qui peuvent être en difficulté pour des raisons de peu de compétences informatiques ou numériques, pour utiliser ce terme plus récent. Mais en réalité, comme je disais tout à l'heure, j'avais la discussion juste avant de venir avec une personne qui est certes retraitée, mais qui a travaillé depuis les années 80 dans la formation aux outils numériques. Et ben, une personne comme elle peut se retrouver en difficulté devant certains types de l'administration. Hein, donc, c'est parfois que les outils qui sont à notre disposition ne sont pas toujours si simples à utiliser. Donc, je pense que ça veut dire que tout le monde doit se sentir assez tranquille avec le fait qu'il n'y a absolument aucune honte à ne pas arriver à faire quelque chose, même les personnes les plus compétentes, parfois sur leur téléphone, parce que c'est la dernière version qui vient de sortir et qu'elle a changé l'interface et qu'on ne retrouve plus où est-ce qu'il faut cliquer, ou simplement parce qu'elle a été faite par une personne qui n'a peut-être pas assez pris en compte, finalement, la position de l'utilisateur final. Alors, évidemment, si, en plus, comme vous disiez, de peu de compétences informatiques, vous avez des difficultés de lecture du français, soit pour des questions de parce que vous ne maîtrisez pas la langue, ou pour des questions de handicap, vous voyez mal, ou des choses comme ça, ben c'est vrai que ça fait autant de difficultés qui s'accumulent. Face auxquelles on peut quand même trouver des solutions, surtout si on fait la démarche de venir se faire accompagner.
Et puis, il y a aussi le fait que certains sites fonctionnent très mal, il faut le dire. Donc ça, ce n'est pas du fait de l'utilisateur, c'est que les sites sont peut-être mal conçus, on va dire. On en connaît très bien un qui est l'ANTS, où c'est compliqué en fait, de faire une démarche sans être bloqué. Et c'est tout à fait compréhensible que les personnes qui veuillent utiliser des services qui sont en ligne, au bout d'un moment, abandonnent parce que la démarche ne fonctionne pas, parce que le site ne fonctionne pas.
D'ailleurs, c'est pour ça que vous organisez le jeudi 17 février un atelier, ou des ateliers plutôt, numériques. Ça se passera où précisément d'ailleurs ?
Alors, déjà, pour préciser, on ne va pas organiser d'atelier ce jour-ci. Il y a deux temps d'information, un en début d'après-midi.
14h30.
À 14h30 jusqu'à 15h30. Et un deuxième temps de 17h30 à 18h30, où nous, on va faire principalement de l'information. Donc, il n'y aura clairement pas d'atelier à ce moment-là. Mais ça sera plutôt des temps où nous, on va se présenter aux gens, on va leur recenser leurs besoins, en fait, ce qu'eux, ils pensent avoir besoin en termes d'accompagnement. On va prendre des contacts avec ces personnes-là et ensuite, on pourra proposer des temps d'atelier.
On peut peut-être...
Ouais, je n'ai pas dit où ça allait se passer. Là.
Non, pas encore. Oui, ouais. Vas-y.
Tu voudras revenir ?
Non ? Non, vas-y, maintenant continue. Oui.
Et du coup, ça va se passer en mairie, au rez-de-chaussée, à la salle Martial Jouven. Donc voilà, il y aura tout ce qu'il faut pour bien indiquer. Ça sera trouvable facilement.
Alors, vous opérez auprès de structures administratives ou, de partenaires de France Services. On peut citer l'assurance maladie, l'assurance retraite. La CAF aussi, la maison de santé, de retraite service, Pôle emploi, Pôle justice et puis les finances publiques, justement avec cette agence des titres nationale des titres sécurisés et la Poste. S'il y en a d'autres, on pourra les préciser. Hein. Alors, quand on vous entend avec ces problématiques liées à certains services numériques, est-ce que vous êtes aussi là pour rapporter un peu les problèmes rencontrés par les administrés et de les faire remonter, ou est-ce qu'il existe justement cette prise en compte des difficultés liées au numérique ?
Alors, ce que vous venez de présenter, c'est plus directement dans le cahier des charges de l'espace France Service. Donc ça, ce sont les partenaires, en effet, de l'espace France Service. Et quant aux questions des remontées, si je comprends ce que m'expliquent mes collègues, oui, ils essayent de le faire. Je ne peux pas vous dire que je suis sûr que ça arrive toujours au bout. Mais enfin, quand ils sont confrontés à ces difficultés, oui, ils essayent autant que possible de le faire remonter. Et en tout cas, moi, quand il m'arrive aussi d'accompagner sur des tâches administratives, même si, comme conseiller numérique, c'est moins notre cahier des charges. En tout cas, moi, j'encourage les utilisateurs qui se retrouvent un peu bloqués ou qui trouvent que la démarche a été un peu complexe à, eux, utiliser les moyens qu'ils ont pour le faire remonter.
Vous parliez d'ateliers. Les prises en compte auront lieu donc l'après-midi ?
Alors, non, on n'est pas à ce niveau-là. Jeudi, c'est vraiment histoire, si vous voulez, quand on veut participer à un atelier quel qu'il soit, que ce soit pour le loisir, on est toujours content de pouvoir aller voir avec qui ça va se passer, quelle tête il a, si le courant passe, et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec lui, hein ? Un peu comme on peut faire quand on va sur le forum des associations au début d'année. Donc là, c'est un peu ça l'idée, que les personnes qui penseraient peut-être avoir envie d'approfondir un peu leurs compétences numériques puissent venir nous voir, alors Delphine et moi, mais aussi nos autres collègues médiateurs numériques, Basile de l'association L'Atelier, Mehdi de l'USCDD, et puis Benjamin sans doute de l'Espace France Service. Et pour nous rencontrer, on leur proposera de faire un petit diagnostic de leurs compétences et on leur proposera de se positionner eux-mêmes sur les choses, les secteurs d'activité, on va dire, sur lesquels ils auraient besoin d'aide sur le numérique, hein, parce que c'est dans tous les aspects de la vie, c'est assez vaste. Et en fonction de... On espère avoir le plus de personnes possible. Et puis, en fonction de ce qu'ils nous auront présenté comme besoin, comme demande, ben nous, on va essayer... On ne pourra peut-être pas répondre à tout, mais on est quand même quelques-uns. On va essayer d'organiser des ateliers. Alors, sur Die et plus généralement dans le DIWA, qui puissent les aider à leur monter en compétences. Soit on pense peut-être aux questions les plus pratiques, on disait tout à l'heure, utiliser une messagerie électronique, les emails, mais aussi utiliser des pièces jointes, peut-être savoir ranger ses photos, peut-être passer une annonce sur le Bon Coin, peut-être faire organiser une visio pour pouvoir avoir des échanges avec sa famille, enfin, tout ce genre de choses, en fonction des demandes. On va organiser un atelier régulier sur X séances, ou un atelier ponctuel, par exemple, sur certaines thématiques. Il n'y a pas besoin d'y revenir trois fois, mais il suffit, par exemple, de le faire une fois pour toutes. Et ce qu'on espère, c'est arriver à pouvoir proposer un calendrier qui soit le plus utile pour la majorité.
Pour résumer, c'est plutôt une phase de pré-inscription, on va dire.
On peut préciser, hormis les personnes qui ont des problèmes avec le numérique, mais ça s'adresse à tous les publics.
À tout type de personnes.
Par rapport justement à DIWA Connecté, hein, avec lequel vous êtes en partenariat, on peut citer donc l'atelier, le SCDD, comme vous l'avez dit, France Service, puisque ça y est, c'est présent également. Le Tourisme Info Service, hein, c'est une agence plutôt sur Saint-Nazaire-le-Désert.
C'est ça.
Quelle est la liaison entre vous et Saint-Nazaire-le-Désert, par exemple ?
Alors là, ça va être plus ma mission. Donc, pour résumer, en fait, Delphine et moi, on est chacun employé par un employeur différent. Delphine par la commune de Die et moi par la communauté de communes du DIWA. Et donc, étant communauté de communes, mon cahier des charges inclut d'être non seulement en appui, comme Delphine, à tous les espaces numériques existants, donc ceux qu'on vient de citer sur Die, mais aussi ceux qui sont un peu plus loin. Donc il y a notamment le TIS de la vallée de la Roanne, donc à Saint-Nazaire, mais il y a aussi l'Épilibre de l'association Val-de-Quin, à Saint-Julien-en-Quin. Ils ont déjà des médiateurs numériques qui ont un temps d'activité limités, ils sont généralement partagés avec d'autres tâches. C'est des associations qui font de différentes choses au même endroit. Hein, ce sont des petits villages. Et donc, typiquement, je pourrais venir en appui pour organiser un atelier un peu plus spécifique que mes collègues n'auraient pas le temps de faire. Une demande qui m'a été faite de la part de mes collègues de Saint-Nazaire. Elles ont eu par le passé fait des ateliers numériques sur la Motte Chalancon. Elles n'ont maintenant plus la disponibilité de temps d'aller jusqu'à la Motte. Donc elles m'ont demandé si je pouvais prendre le relais et prendre la suite de leur atelier là-bas. C'est un exemple. Un autre exemple avec la vallée de Quin. Une des collègues avait demandé si l'un de nous serait d'accord de venir lui prêter main forte sur un atelier généalogie et Internet. On a fait ça dans le cadre de la Semaine Bleue, donc au mois d'octobre.
On peut revenir sur Épilibre. Donc, en quoi consiste ce travail de généalogie et...
Là, c'était l'idée d'une collègue de proposer une initiation à la généalogie par Internet. Elle avait fait ça quelques années auparavant, et puis elle voulait le proposer dans le Diwa. Mais elle ne voulait pas le faire seule, parce que c'est toujours un peu compliqué d'animer un atelier seul. Hein. C'est toujours plus simple d'être à deux. Et moi, je connaissais rien de particulier à la généalogie, mais le projet m'a intéressé. Et à titre personnel, j'aurais plaisir de pouvoir le proposer à d'autres endroits dans le Diwa. Et il me semble particulièrement intéressant parce que le sujet est assez plaisant et ludique. C'est un sujet plutôt culturel. Hein. Beaucoup de gens sont intéressés par trouver des informations sur leurs ascendants, ce qu'ils ont vécu, l'endroit où ils ont vécu, etc. Et en réalité, alors, les outils numériques nous aident beaucoup en fait, pour trouver des informations relativement rapidement. Alors, pas toujours. Hein. Parfois, on bute sur des difficultés aussi. Mais par exemple, par le biais des archives départementales en ligne, tous les registres d'état civil anciens de la Drôme, alors anciens, hein, on ne peut pas consulter les personnes qui sont toujours en vie, hein, mais sont entièrement numérisés. Hein, donc, à titre personnel, j'ai pu retrouver les actes de naissance de certains de mes grands-parents qui sont dans des petites communes, de petits villages. Il m'aurait fallu plus de 2 heures de route pour y aller. Et là, j'ai pu avoir une copie numérique haute qualité, donc consulter l'état civil, l'acte de naissance, comme si j'y étais. C'est très intéressant. Et c'est une porte d'entrée sur le numérique par un côté un peu ludique et qui permet, sans s'en rendre compte, finalement, pour certaines personnes, de commencer à peut-être utiliser un compte sur un site Internet pour faire cette généalogie ou enregistrer une image parce qu'on a envie de garder justement une copie pour soi de cet état civil qu'on a trouvé. Donc c'est à la fois ludique et en même temps, ça peut permettre de gagner un peu en compétences ou peut-être pour certains d'avoir une première approche avec des outils qui, sinon, ils n'auraient pas eu l'occasion ou l'envie d'utiliser ou de découvrir.
D'ailleurs, avant de continuer, vous avez eu une formation, tous deux, justement pour cette perspective d'animation d'atelier. En quoi avez-vous été formés dans ce domaine ?
Alors, il y a beaucoup de modules qu'on a suivis. Moi, j'ai suivi le cursus de formation en entier. Mon collègue un peu moins, parce qu'il avait déjà des compétences que je n'avais pas. Donc ça va de modules où on nous apprend à prendre la parole en public, à organiser un discours par exemple, à établir des calendriers de communication par rapport à des événements, donc ce qu'on est très bien en train de mettre en place tout de suite avec toi. On a eu aussi des modules sur la bureautique, sur des choses un peu plus poussées, type robot pédagogique avec du codage, la programmation. Qu'est-ce qu'on a eu encore ?
Ben plus en lien avec la question des ateliers qui nous est posée, là, c'était des modules assurés par des collègues médiateurs numériques, mais qui, eux, sont des anciens dans le métier, qui ont plus de 10 ans d'expérience, et qui nous ont enseigné par différents moyens, différents outils pédagogiques, comment on peut essayer d'aborder les questions numériques aussi par... pas forcément par la voie directe la plus classique. Allez, on va aller sur Word, le logiciel de traitement de texte ou dans l'explorateur de Windows. Mais on peut tout à fait, ça demande du temps de préparation, mais utiliser des moyens un peu plus ludiques, un peu plus comme on fait dans l'animation de façon générale. Donc ça, c'était très passionnant pendant la formation. Ça nous a ouvert aussi pas mal d'horizons par rapport à ce métier. Et c'est vrai que ça donne envie de pouvoir faire utiliser ce type de médiation parce que ça rend... Enfin c'est comme l'enseignement en général. Plus on a du temps de préparation et plus on a du temps de faire des outils qui parlent directement au sens, qu'on va manipuler, qu'on va pouvoir expérimenter chacun, plus il y a de la chance que derrière, les personnes qui apprennent vont retenir et apprendre par eux-mêmes. Après, forcément, c'est toujours ça demande toujours plus de temps pour préparer tout ça. Que de faire un simple cours classique. Regardez comment il faut faire, je vous montre, vous me suivez. Donc, à titre personnel, moi, j'espère trouver un équilibre entre les deux manières de fonctionner, en fonction des besoins des gens et où est-ce qu'ils en sont. quelqu'un qui est déjà suffisamment avancé, mais qui veut gagner un peu en compétences, ben on peut se permettre d'avoir un enseignement un peu plus direct. Quelqu'un qui est débutant, peut-être qu'on va au contraire prendre des moyens pour pas passer tout de suite au numérique, mais qui comprennent avec d'autres images, avec d'autres exemples, de quoi il s'agit, et en faisant le pari que ça lui permettra après d'aller plus vite, d'être moins bloqué. Et de ne pas faire comme ont eu beaucoup d'entre nous, quels que soient les âges. Tout à coup arrive un appareil, et puis débrouillez-vous avec ça. Et si vous ne savez pas comment faire, ben, tant pis, vous ferez avec. Hein, ce qui a bloqué pas mal de gens, souvent. Hein.
Ce qui était intéressant dans la formation, c'est de voir qu'est-ce qui est possible de faire dans une version idéale. Après, sachant que nous, sur le terrain, en fait, quotidiennement, on fait bien comme on peut. Mais ce côté-là, moi, j'ai beaucoup apprécié de savoir construire une séance pédagogique, par exemple, pour animer un atelier collectif. C'est vraiment intéressant de le savoir. Après, de l'appliquer vraiment, on verra. Mais voilà, toute l'histoire aussi de la médiation numérique, ça j'ai beaucoup apprécié parce que donc moi c'est une reconversion que j'ai fait. La médiation numérique, je savais pas trop voilà ce que c'était, et d'avoir en fait toute cette historique là, ça m'a permis aussi de savoir où j'allais en fait, et de s'inscrire dans un réseau qui existe et qui se bat pour exister tous les jours. Donc voilà, à plein de niveaux, c'était vraiment intéressant de faire cette formation. Personnellement, il y a des choses qui m'ont manqué, il y a des choses que peut-être j'avais pas envie de voir, mais enfin voilà, c'est toujours bon à prendre. C'est rare d'avoir un poste où on vous fournit une formation pour être, pas effectif, mais ce serait quoi le mot? Pour être après sur le terrain, tu vois, je sais pas le mot, pour être apte ensuite à pouvoir travailler sereinement.
Je voulais revenir sur les difficultés de certaines personnes. On peut penser aussi à la vue, souvent déficiente parfois. Et justement, vous êtes là aussi pour proposer une manière d'aborder le numérique avec, comment on appelle ça, ces facilités qui sont offertes avec des systèmes informatiques, soit par loop ou par affichage différent, pour justement augmenter la lisibilité pour des personnes qui ont des mauvaises vues. Ça, c'est un exemple, mais est-ce que vous prenez en compte aussi certaines personnes en handicap face au numérique?
Ça me fait penser à ton exemple du monsieur qui ne voyait rien. Là, que tu disais.
Oui, c'est vrai que la question purement de la vue peut être un handicap chez des personnes qui, par ailleurs, sont relativement compétentes, mais qui, pour plein de raisons, n'ont pas les moyens de changer de lunettes ou n'y sont pas encore allées. Évidemment que si vous y voyez mal, tout est très compliqué, d'autant plus que les interfaces récentes semblent faites pour les yeux les plus perçants, avec des petits éléments de validation de boutons d'interface qui sont cachés derrière des petits points à peine visibles. Hein. Donc, c'est pas toujours formidable. Je le dis souvent aux apprenants, hein, même moi, parfois, j'ai pourtant une vue tout à fait correcte. Ça m'arrive de chercher où est-ce qu'il faut cliquer. Hein. Mais sur la spécificité d'un accompagnement de personnes avec un handicap visuel, on n'est pas, c'est pas notre métier, hein, mais si on vient nous voir, c'est vrai qu'on va essayer soit de proposer les choses qu'on peut faire avec le système qu'utilise la personne. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont intégrées maintenant, hein, que ce soit au système sur les ordinateurs de bureau ou sur les smartphones. Mais après, il y a tous les autres systèmes que vous citiez, sur lesquels moi je ne suis pas forcément compétent. Par contre, soit on va trouver peut-être des personnes vers qui renvoyer, soit on va se renseigner pour pouvoir essayer d'aider au mieux les personnes qui viendraient nous voir. C'est vrai que ça serait dommage aujourd'hui de ne pas pouvoir bénéficier de tous ces outils. Il y a quand même de très nombreuses choses, des liseuses ou des agrandisseurs, des choses comme ça.
D'autres difficultés, c'est par rapport à la compréhension hein, de certains sites. Vous le disiez en entrée d'émission, il y a cette barrière peut-être psychologique aussi face au numérique. Est-ce que vous êtes là aussi pour concrétiser ou d'expliquer au public qui viendra ce qu'est l'outil informatique et non une espèce de contrainte.
Ça, c'est la partie, je trouve, la plus complexe à développer. Moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est que, en fait, ça peut m'arriver aussi de ne pas voir, de ne pas comprendre, que c'est pas inhérent à eux-mêmes et qu'il faut pas qu'ils se dévaluent pour autant. Parce que, en fait, on est tous égaux face au numérique. Comme le disait Emmanuel, même si on est compétent sur un logiciel, bah, peut-être que sur autre chose, on le sera pas. Et en fait, il faut. Idéalement, il faut dédramatiser tout ça et le prendre plus sereinement. Mais comme tu le dis bien, psychologiquement, ça peut mettre à mal en fait l'estime de soi.
Notre mission est très claire, c'est aider les habitants à devenir plus autonomes avec les questions numériques. Et moi, une définition de l'autonomie que j'aime beaucoup, c'est connaître ce que je peux faire tout seul, connaître ce pourquoi j'ai besoin d'aide et être capable de demander quand j'en ai besoin. Et ça, en réalité, on voit que ben, ça s'applique à chacun de nous. Hein. La base, je trouve, de notre travail de conseiller numérique, au-delà de dépanner les gens sur des situations un peu bloquantes, soit avec administratives, soit avec leurs appareils, c'est de les aider à être suffisamment informés pour décider de ce qu'ils ont envie d'utiliser, d'apprendre ou d'approfondir. Ni Delphine ni moi ne sommes là pour faire l'apologie du numérique. Nous, on est des utilisateurs. Moi, j'utilise tous les jours et toute la journée. Mais si quelqu'un vient me voir et me dit « Écoutez, moi, ça ne m'intéresse pas le numérique, mais pour telle chose, je suis obligé de le faire et j'aimerais que vous m'aidiez pour ça », ça me suffit. Si quelqu'un vient me dire « Mais moi, je ne veux pas du tout d'adresse email », ben, peut-être que je vais quand même essayer de lui dire « C'est votre liberté, vous faites comme vous voulez ». Mais aujourd'hui, dans notre société telle qu'elle est organisée, ça va vous mettre en difficulté sur beaucoup de choses et ça vous oblige à être dépendant d'une autre personne qui va vous prêter votre adresse email. Donc, ça me semble vraiment le minimum à avoir. Après, si vous ne voulez pas avoir un smartphone, si vous voulez avoir un téléphone classique comme on avait il y a quelques années en arrière, si vous voulez utiliser les ordinateurs des espaces numériques pour vos démarches et ne pas en avoir chez vous parce que vous considérez que c'est une dépense inutile, ça ne me dérange pas. Le tout est que ce soit fait en conscience et que ce ne soit pas fait par peur, parce que pour le coup, il me semble qu'il n'y a pas de peur à avoir. Il y a peut-être un usage un petit peu... critique à avoir. Hein, bien sûr, on peut aborder aussi toutes ces questions. Quels sont les enjeux ? Tout à l'heure, Delphine disait, mais finalement, quand j'utilise le numérique, je vais devoir donner des données personnelles. Dans quel cadre ? Comment ça se passe ? Est-ce que j'ai vraiment envie ? Est-ce que je peux refuser ? Et selon les situations, c'est oui ou non. Pour certaines démarches, si vous voulez la faire en ligne, vous allez être obligé de donner telle information. Mais bien souvent, sur les informations, finalement, on peut en laisser beaucoup moins que ce qu'on croirait. Hein, on nous demande une liste de 10 informations, mais il n'y en a peut-être que la moitié qui sont réellement obligatoires au traitement du service.
Je reviens sur vos postes donc de conseiller numérique, par la communauté de communes et toi, Delphine, par la ville de Die. Ces deux collectivités ont pris conscience donc de ces difficultés d'une population face au numérique. Et est-ce que vous avez déjà pressenti le travail à venir ? Est-ce qu'il y en a beaucoup ?
Oui. on avait fait une réunion, parce que nous, on a pris nos postes au mois de septembre et on est parti en formation au mois d'octobre. Et au mois de septembre, on avait fait une réunion avec beaucoup de partenaires pour justement établir tous les besoins qu'eux recensaient. Et on s'était retrouvés avec un gros tableau avec plein de missions possibles. Et à la fin de la réunion, c'était drôle parce qu'on s'était tous regardés. Enfin, ils nous avaient tous regardés et ils nous avaient dit « Bon courage !» Donc oui, on visualise à peu près... Enfin, on visualise, on va dire grossièrement, ce qu'on va pouvoir mettre en place. Et nous, nos recrutements, en fait, ils ont été faits parce que Caroline Roux, qui travaille à l'Espace France Service, s'est bien rendu compte que les demandes des gens qui venaient à France Service affluaient de plus en plus et que le besoin, il est là, il existe et qu'il fallait un peu de renfort sur le terrain. Donc, bien que nous, on ne travaille pas seulement que pour France Service, on leur vient en aide comme on peut. Et on va prendre en charge tout ce travail qui va être à faire au moins pendant les 2 ans de notre contrat, parce qu'on a des contrats de 2 ans. Et pour la suite, on espère une pérennité dans le poste.
D'ailleurs, on revient sur Diwa Connecté hein, avec le SCDD. J'imagine que, étant implanté un petit peu partout sur le Diwa, est-ce que vous serez aussi vous-même amené à vous rendre sur le Haut Diwa ou d'autres villages ?
Tout à fait. Alors, on a parlé tout à l'heure, donc c'est plus le côté qui me reviendra, mais même si tout est un peu interchangeable avec Delphine. On a parlé de la vallée de la Roanne et de la vallée de Quin. Donc là, c'est des endroits où il y a déjà des espaces numériques, donc je peux y venir en appui. Mais ma mission inclut, de façon tout à fait claire, d'aller aux endroits où il n'y a pas d'espace comme ça. Alors, pour les démarches administratives, l'espace France Service continue de se déplacer sur l'ensemble du territoire de façon ponctuelle sur rendez-vous. Et ce qui m'est demandé, c'est d'essayer de proposer, de la même manière qu'on le fait sur le Diwa, des ateliers, des rencontres ou des moments de présence sur l'ensemble du Haut Diwa. Donc ça va commencer dès le mois de mars, par exemple, à Châtillon. Avec le club de l'Adou, le club des anciens, on a programmé un atelier numérique. Mais ça pourrait être avec n'importe quel autre type de public. C'est avec ce groupe que j'ai eu le premier contact. On a été sollicité dès notre arrivée par monsieur le maire de Luc-en-Diwa, qui en effet a repéré des besoins. Et je vais aussi proposer des ateliers sur Luc-en-Diwa. On a parlé de la mode Charlancon tout à l'heure, ça peut être Valdrome. Vendredi prochain, j'irai avec ma collègue de France Service jusqu'à Luz-la-Croix-Haute et je ferai une permanence. Donc j'ai cité ces villages qui sont les bourgs les plus importants, mais l'idée c'est d'être présent finalement un peu sur toute la communauté de communes et que toutes les personnes qui auraient besoin et envie d'être accompagnées sur le numérique puissent le faire relativement à proximité de chez elles.
Une catégorie de personnes exerce une profession, plutôt occupée en journée. Est-ce qu'il y a aussi des séances qui seront adaptées pour ces personnes, qui seront disponibles plutôt en fin d'après-midi ou en soirée ?
Oui, on va faire le maximum pour accompagner tout le monde par rapport aussi à leur disponibilité. C'est pour ça qu'on fait justement ces temps de préinscription. Qu'on prend des contacts, parce que ça fait partie des questions qu'on va leur poser. Quand êtes-vous disponible? À quelle heure? Quel jour? Et nous, en fonction des réponses, on organisera selon ce que les gens nous répondent. Nous, on a un contrat de 35 heures pour l'instant qui est en journée, mais voilà, tout est adaptable en fait.
L'enjeu, c'est d'être au service de tous les habitants, quels qu'ils soient, et quelle soit leur disponibilité. Donc, je ne veux pas dire qu'on va faire des ateliers tous les jours de 20h à 22h. Je ne pourrais pas m'y engager. Par contre, qu'on arrive à trouver des créneaux qui permettent au maximum de pouvoir participer, on va essayer d'aller dans ce sens-là, dans la mesure de nos possibilités.
Ça ne sera pas en visioconférence, en tout cas. J'imagine pas. Non, mais ça serait trop difficile pour des personnes qui n'y connaissent rien pour se brancher.
Si on est sur un public débutant, non. Mais
oui,
si c'est d'autres demandes avec un autre niveau et qu'on peut y répondre, moi je dis pourquoi pas. Hein.
D'ailleurs, y a-t-il obligation d'être possesseur d'un outil numérique, quel qu'il soit, pour participer à ces séances ?
Alors, dans l'absolu, non. La réponse, c'est que c'est toujours plus facile d'apprendre quand c'est son propre matériel. Hein, c'est toujours plus simple. Alors, quand on fait avec un autre matériel, ça oblige à un peu plus de gymnastique, c'est-à-dire transposer ce qu'on a vu dans l'atelier à l'appareil que peut-être on aura chez soi. Typiquement, quelqu'un qui aurait un ordinateur de bureau avec une tour et un écran externe, ça va être un peu compliqué qu'il l'amène pour participer à l'atelier numérique. En revanche, s'il a une tablette ou un smartphone, ou un téléphone, un ordinateur portable, là, pour le coup, c'est plus simple. Donc ça, ça serait un peu selon les lieux, selon l'atelier, selon l'endroit où c'est organisé. On a quelques matériels qui peuvent nous être prêtés. Selon les endroits, on utilise le matériel qui est sur place. On n'a pas de dotation de 25 portables qu'on emmène avec nous, hein, malheureusement. Hein. Mais on a quand même un certain nombre de ressources et je pense qu'on va arriver avec ça. Parce que malgré tout, la question de l'équipement, beaucoup de gens, j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui sont équipés et qui ne savent pas trop utiliser leur matériel que de gens qui n'ont vraiment rien. Et ceux qui n'ont vraiment rien, ben, on peut déjà les accueillir dans l'atelier, utiliser les outils qui sont sur l'espace public numérique. Et puis, on peut peut-être aussi les accompagner pour essayer de trouver quel type de matériel ils pourraient se procurer avec un budget adapté à leurs moyens. À savoir qu'on peut trouver des solutions aujourd'hui, même avec des très petits budgets, pour avoir un ordinateur qui fait des tâches bureautiques et Internet de base.
D'ailleurs, sur certains secteurs où agissent, je reviens à France Service, dans certains villages comme Minglon, Lucandiois, Saint-Nazaire-l'Isère, tous ces lieux ont-ils un petit local, justement, avec un ordinateur à disposition d'un public ? Est-ce que ça, c'est une possibilité à envisager ?
Alors, je ne sais pas encore répondre à cette question précisément. Alors là où il y a les EPL, la réponse est oui, hein, pour Saint-Nazaire et Val-de-Quin, c'est sûr. Pour Lucandiois, il y a dans les locaux de Erdiois à Luc, il y a quelques ordinateurs. Donc là, je pense qu'il y a un projet qui est en train de se mettre en place, qui peut être utile à tous les habitants. À Luz-la-Croix-Haute, il y a au minimum à l'agence postale, il y a un ordinateur en libre-service. Et dans les autres villages, pour l'instant, je ne sais pas. Mais ça fait partie des questions justement que je pose pour savoir si, au minimum, il y a un endroit en libre-service, en effet.
On peut rappeler aussi le partenariat de l'atelier. En quoi consiste-t-il, hein ? Vous aviez parlé tout à l'heure de ce qui était proposé déjà, mais qu'est-ce que vous proposeriez ? Ça serait des ateliers au sein de l'atelier, par exemple ?
Donc l'atelier, c'est un espace de coworking où vous pouvez louer un bureau à l'heure, par exemple, si vous avez besoin d'une connexion Internet pour faire une visio. Et eux proposent en fait des temps de formation. Donc ces temps de formation, ils peuvent être pris en charge sous le pass numérique ou pas. Ça dépend en fait de votre demande, du niveau que vous avez.
Tu parlais de pass numérique, en quoi consiste-t-il ?
Pour faire très simple, le pass numérique, c'est un dispositif d'État qui permet, par le biais de chèques numériques, à toute personne de bénéficier d'un certain nombre d'heures, jusqu'à 40 heures, d'ateliers d'initiation aux différentes thématiques numériques, cela gratuitement, pris en charge en fait, par l'État. Donc, ça s'adresse à la plupart des personnes qui vont venir nous voir dans le jeudi là, pour l'après-midi. Il faut voir au cas par cas dans quel cadre ça peut... Mais disons que ça fait partie des dispositifs qui sont là, de la même manière qu'on est là, conseiller numérique France Service, pour essayer de répondre au problème de la fracture numérique, comme on dit parfois. Enfin, en tout cas, la difficulté d'utilisation des outils numériques. Donc, il y a les personnes. Hein, nous sommes là comme médiateurs numériques, conseillers numériques. Et puis, il y a aussi cet outil aussi de financement qui est, alors là, pour tous les espaces publics numériques, qui peuvent par ce biais proposer des formations et qui restent du coup gratuites pour les bénéficiaires.
Voilà, donc rendez-vous est donné ce jeudi 17 février au rez-de-chaussée de la mairie, à la salle
Martial Jouven.
Voilà, et cela s'adresse à toute personne ayant des problèmes ou des difficultés avec la numérisation de l'administration principalement, mais aussi de tous les services qu'on peut trouver sur Internet.
Et qui présente, on va dire, une envie de s'y mettre. Voilà, il y a vraiment aucune obligation de venir si vous n'avez pas envie de venir. C'est des personnes. Enfin, nous, on accueille les personnes qui ont des besoins et qui ont l'envie et la motivation de participer.
Est-ce que par là aussi, le fait de rendre autonomes les usagers qui viendront vous voir, ça serait de leur cas aussi de pouvoir enseigner à d'autres Est-ce que vous donnez cette possibilité à ces gens de pouvoir partager ce qu'ils ont découvert ou appris ?
Pour moi, l'idée, c'est un peu ça, en fait, parce que si je transmets correctement ce que j'ai à transmettre, ça veut dire que derrière, la personne à qui j'ai transmis pourra retransmettre elle-même. Et ça, c'est quand même la base de l'autonomie, en fait. C'est une fois que je sais faire et que j'ai compris, je peux réexpliquer derrière et je forme quelqu'un. Enfin, je forme, c'est un bien grand mot, mais je suis capable d'expliquer à quelqu'un comment ça fonctionne. Donc pour moi, ouais, c'est la base.
Delphine, tu étais déjà venue, hein, tu as même produit une série d'émissions. Et par contre, Emmanuel Mourier, vous êtes nouveau dans la radio, quelque part. Qu'est-ce qui vous a amené à être justement ce conseiller numérique ?
Eh bien, écoutez, moi, j'ai toujours eu un peu cet intérêt pour les outils, alors on disait informatiques, hein, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Alors moi, je n'ai pas grandi avec des ordinateurs. Moi, j'ai bientôt 48 ans. Certains de ma génération ont eu des appareils numériques dans leur foyer, mais ça restait quand même relativement rare quand j'étais enfant, ado. Mais j'ai fait partie des élèves qui ont pu bénéficier de l'option informatique au lycée. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'ai commencé à découvrir certaines choses avec ça. Et puis, j'ai gardé un peu cet intérêt. Alors après, j'ai fait différentes choses, tant en tant qu'étude qu'en tant que profession. Mais j'ai toujours gardé un peu ce fil de la médiation numérique, même si je ne connaissais pas le mot, finalement. Et en découvrant tout ça, je me suis rendu compte que moi, ça me correspondait extrêmement bien, à savoir que je suis utilisateur à titre personnel de différents outils. J'ai plaisir à le faire, mais j'ai surtout beaucoup de plaisir quand j'arrive à aider d'autres personnes à être plus indépendant, plus autonome, et cela de la façon la plus fluide possible, la plus simple possible. J'estime que les outils informatiques sont vraiment là pour nous simplifier la vie, pour nous aider à passer moins de temps à des tâches rébarbatives. Et c'est comme ça que je considère que l'informatique devrait être. Malheureusement, on l'a dit plus d'une fois pendant cet entretien, bien souvent, c'est un peu le contraire qui se passe. C'est ces outils qui devraient être émancipateurs, finalement, on voit qui nous posent des problèmes. C'est-à-dire là où on était compétent, on va tout à coup se retrouver incompétent parce qu'on n'a plus la maîtrise de ces outils. Donc ça, moi, je trouve ça vraiment très dommage. Et si, par mon travail de conseiller numérique, je peux aider à dépasser un peu ce genre de problème, j'en serais vraiment très, très, très heureux.
Eh bien, je vous remercie tous deux, Delphine Rudiansky et Emmanuel Mourier, d'être venus nous parler donc de ces ateliers numériques ouverts au public et qui seront effectifs à partir, pas l'atelier, mais au moins une première prise de contact qui aura lieu donc ce jeudi 17 février à la mairie de Die. Je vous remercie. Est-ce que vous avez, je ne vais pas parler de France Service, mais est-ce qu'il y a une adresse mail pour vous joindre ?
Ah, pour, ouais.
Oui, on peut laisser nos coordonnées peut-être sur le site internet.
Mais ça, je pourrais le laisser aussi sur le texte de présentation d'émission sur notre site internet.
Même nos numéros pro. Numéro oui, et adresse mail, tu pourras les noter. Ouais.
Oui, très bien. Donc, ça sera indiqué sur la page de l'émission. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci à toi, Yves. Au revoir. She spit it, snuff and boogie, damn on drain. Spit on! They say I'm different cause I eat chitlins. I can't help it, I was born and raised on them. That's right, every morning have to slap the hogs and they be getting off humping the jolly hooker. Moonshine, the Baby King and Jimmy Ray, rock on that. And I
Talk about it. Talk about it. Talk about it. Talking about lightning, Hopkins.